Les séminaires du Collège de France.
Si ça marche. Eh bien, merci d'être resté pour cette deuxième partie de la séance. Et donc, nous allons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Audrey Bienfait, qui est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, qu'elle a rejoint en 2019. Elle a fait sa thèse au CEA à Saclay sur le couplage entre des qubits de spin, enfin des spins que nous avions vus dans le premier cours, avec des résonateurs, donc quelque chose finalement qui ressemble à une cavité, mais dans les matériaux supraconducteurs. Elle a ensuite effectué un postdoc de 3 ans aux États-Unis à l'Université de Chicago, dans le groupe d'Andrew Cleland, sur le couplage entre des systèmes supraconducteurs, des résonateurs et des qubits, et des ondes acoustiques. Donc vous voyez que le sujet dont elle va vous parler s'inscrit fortement dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, c'est-à-dire le couplage entre un qubit stationnaire, un état, et un qubit qui se propage, une onde acoustique. Elle a décroché un contrat ERC au niveau européen. C'est des contrats très sélectifs, il y a quelques années, 3 ans, c'est ça, qui s'appelle Indigo, où elle étudie maintenant la possibilité d'utiliser ces systèmes supraconducteurs pour faire de la sensibilité, de la détection très précise de champs magnétiques. Et elle va nous présenter aujourd'hui des travaux qui sont plutôt ceux que tu avais réalisés aux États-Unis.
Oui, c'est ça.
En partie, parce que le choix a été fait par rapport au cours que je faisais avant pour que ça colle un peu plus. Voilà. Eh bien, on a grand plaisir à t'écouter.
Merci Pascal pour cette introduction, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être présente parmi vous. Donc c'est un séminaire je vais essayer de vous expliquer comment on peut utiliser un objet quantique qu'on crée artificiellement de toutes pièces, un qubit supraconducteur, pour créer des entités uniques, comme Pascal vient de décrire dans son cours, des photons. Sauf que cette fois-ci, dans ce séminaire, ça sera des phonons. D'accord. Une entité un peu différente, mais on va voir que ça se comporte quand même un peu pareil. Donc ça peut être très interactif, n'hésitez pas du tout à poser des questions. Si on n'arrive pas à la fin de la présentation, c'est pas grave pour moi. Alors peut-être, tout d'abord, voilà. Qu'est-ce qu'un phonon par rapport à un photon? Donc un photon, c'est cette grain de lumière qui voyage, qui répond à la dualité onde-particule. Peut-être que là, au bout de 4 cours, c'est un objet quantique que vous connaissez bien. Le phonon, par rapport à un photon, qu'est-ce que c'est? C'est une vibration élémentaire d'un médium, d'un matériau. Et les phonons, c'est un peu présent depuis tous les débuts de la mécanique quantique, parce que pour expliquer pas mal de comportements quantiques, il faut en venir au phonon, au bain de vibrations, pour finalement décrire peut-être c'est quoi la température d'un système physique, parce qu'il faut en venir à la description des matériaux pour expliquer les propriétés, peut-être les dynamiques de certains objets quantiques. Mais moins récemment que les photons en tout cas, ça n'a pas vraiment été considéré comme des objets quantiques en tant que tels qu'on pouvait vraiment adresser individuellement. Et c'est seulement, on va dire, peut-être il y a maintenant depuis une petite vingtaine d'années, on peut vraiment venir adresser des modes mécaniques uniques. Donc là, vous avez 2 exemples sur ce slide, et venir en contrôler leur état. D'accord. Et donc avec ces device, ces dispositifs qui permettent d'adresser des faux noms individuels. On utilise, donc pour les adresser, plutôt des couplages soit optiques, soit électromécaniques. Ça dépend finalement de leur taille. Parce qu'en fait, ces dispositifs mécaniques peuvent avoir des tailles ou des formes extrêmement différentes. Donc par exemple, ici, donc ce sont des modes vibratoires qui sont contenu dans un substrat, donc en fait c'est des vibrations qui se propagent dans la hauteur du substrat, tandis que donc c'est quelque chose qui fait de la centaine de microns, tandis qu'ici ce sont des poutres nanométriques dans lesquelles on peut venir piéger une vibration, et ça c'est plutôt de la taille de la centaine de nanomètres. Donc pour vous donner un peu un exemple des grandes variétés, donc là on a encore d'autres exemples. Donc ici c'est une poutre mécanique qui vient se mettre en vibration. Donc ça c'est aussi de l'échelle de la centaine de microns, tandis qu'ici c'est vraiment une membrane qui vient se mettre en vibration, et ça c'est plutôt de la taille millimétrique. Donc vous voyez, il y a vraiment une gamme d'objets vraiment différente, avec des applications qui peuvent aller à la détection de masse ou de force, ou alors faire de la transduction entre différentes, par exemple, gammes de fréquences, entre les gammes de fréquences micro-ondes aux gammes de fréquences optiques, ou entre différents objets quantiques qui sont eux aussi à l'état solide. Donc, ce que je viens de vous raconter, c'était un mode mécanique piégé, donc une vibration piégée dans un matériau. D'accord. Ce qu'on va plutôt faire dans ce séminaire, c'est avoir des phonons qui voyagent, des phonons itinérants. C'est-à-dire que ce sont comme des ondes électromagnétiques qui se propageraient à la lumière. Ils ne sont pas placés dans une boîte en cavité, comme ça peut être le cas pour ces dispositifs que je viens de vous montrer. Là, ce sont vraiment des ondes qui se propagent, un peu comme des tremblements de terre à la surface de la Terre. Alors, peut-être la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces vibrations qui se propagent ? Et là, vraiment, la meilleure façon de répondre, je trouve, c'est de faire l'analogie avec des photons, d'accord ? Des photons itinérants, comme émis par une source, par exemple. Et là, ben, je pense que vraiment le cours suivant sera vraiment clé pour comprendre cette image, mais je pense que Pascal en a déjà assez dit que grâce à ces photons voyageants, on peut faire processer de l'information quantique, et je ne vais pas détailler plus parce que vous aurez la réponse dans la semaine prochaine en beaucoup de détails. L'autre chose, en fait, c'est que sur les photons, ils peuvent porter leur propre état quantique, d'accord ? Et donc c'est le premier vecteur qu'on a utilisé pour tester un des principes fondateurs de la mécanique quantique, et les principes d'intrication avec la violation de l'inégalité de Bell. Et donc là, c'est peut-être l'exemple récent le plus spectaculaire, où finalement on a utilisé ces photons sur une distance de pour finalement violer l'inégalité de Bell sur une distance de à peu près 1 km, qui permet finalement de s'affranchir de certaines hypothèses dans cette violation d'inégalité, de prouver finalement l'intrication que l'intrication existe sans faire trop de suppositions de théorie locale. Et finalement, peut-être une dernière application de ces phonons, c'est comme des photons, on peut les faire interférer. Et donc peut-être prendre l'exemple à plus grande grandeur d'interférence photonique, c'est l'expérience de LIGO ou de Virgo, où on se sert de cette interférence à grande distance pour détecter les ondes gravitationnelles. Donc, si on savait maîtriser les phonons, de la même façon que les photons, on pourrait faire exactement ces trois applications. Faire des interférences, les faire transporter de l'information quantique, et donc peut-être violer l'inégalité de Bell, et pourquoi pas processer de l'information quantique. Donc c'est peut-être ça qu'on va essayer de faire. Et donc pour ça, il faut quand même savoir maîtriser, émettre un phonon unique. Et donc c'est ce qu'on veut essayer de faire, et peut-être pour finir cette introduction, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Autre que conceptuellement, c'est peut-être assez intéressant et assez sympathique, c'est que les phonons, par rapport aux photons, ils peuvent aller beaucoup moins vite. ça va peut-être vous parler un peu moins, c'est moins vite, c'est moins bien, etc. Mais en fait, ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B, eh bien, il faut moins de temps. Il faut plus de temps. Mais plus de temps, c'est intéressant parce que ça laisse plus de temps pour faire des choses, pour préparer un état de mesure en fonction d'une autre mesure, par exemple. Et donc, ça veut dire que concrètement, lorsqu'on a un temps fini pour processer l'information, ça amène finalement à des choix qui amènent à des devices plus compacts. Ensuite, les phonons, c'est la base des matériaux, de la description des matériaux. Donc, arriver à maîtriser des phonons, uniques, ça veut dire qu'on arrivera à en faire des sondes pour des propriétés de matière condensée suffisamment précises. Et ensuite, si c'est quelque chose qui est lié au matériau, ça veut dire que des dispositifs, des objets quantiques qui sont dans un matériau, on va peut-être pouvoir les interfacer, même s'ils sont de nature différente. Donc, c'est un peu tout ça l'espoir, et je vais me focaliser peut-être plus sur la dernière, essayer d'interfacer des objets quantiques différents, distincts grâce à ces phonons. Et donc là, on peut imaginer finalement qu'on a deux objets quantiques distincts qui sont tellement éloignés qu'ils ne peuvent pas se parler de manière directe, et on veut les interfacer, les coupler, propager l'information de ce point A à ce point B. Donc c'est pour l'instant, ces objets quantiques, je ne les décris pas, ça peut être des atomes, ça peut être des spins électroniques, ça peut être, comme aujourd'hui, des qubits supraconducteurs. Et donc pour arriver finalement à les coupler, une des solutions qu'on peut envisager, c'est de transférer l'information de ce point A à ce point B en émettant des guides d'ondes, des paquets d'ondes itinérants à travers un guide d'ondes, d'accord ? Donc c'est ça que je schématise, ces deux traits bleus, ces deux traits noirs sur ma slide. C'est un guide d'ondes dans lequel on peut envoyer finalement l'état quantique d'un objet sous forme de paquet d'ondes à l'autre objet. Donc ça a été fait avec des photons de manière assez... dans des systèmes très, très variés. Donc je remets finalement cette violation des inégalités de Bell, où finalement c'est les objets quantiques qui ont été utilisés, ce sont deux centres NV. Et donc il n'y avait pas... Le guidon, dans ce cas-là, c'était des fibres qui permettaient de se déplacer à deux points distincts du campus de Delft. Et donc tout est finalement fait... donc les centres NV, ce sont des systèmes qui fonctionnent à des fréquences d'ondes de l'ordre du gigahertz, tandis que les photons qui se déplacent, ce sont des photons optiques. Et donc, par comparaison, on peut faire la même expérience avec des qubits supraconducteurs, où finalement, vous avez de chaque côté, finalement, cet objet quantique est fait à partir de matériaux supraconducteurs. J'ai expliqué par la suite qu'est-ce que ce sont ces qubits supraconducteurs. Et on peut relier avec un lien cryogénique qui fait à peu près une trentaine de mètres. Et dans ce cas-là, en restant dans cet environnement cryogénique, on peut aussi violer une inégalité de Bell. Voilà, donc c'est ça que permettrait finalement de coupler des systèmes lointains. On pourrait envisager de faire la même chose avec deux objets quantiques distincts. Et donc c'est une chose qui a été proposée, et c'est plus particulièrement pourquoi a été proposé donc les ondes acoustiques de surface, qui sont les phonons qu'on va adresser aujourd'hui. D'accord. Donc les ondes acoustiques de surface, ce sont des ondes qui se propagent à la surface du matériau et qui pourraient permettre d'emmener finalement l'état, par exemple, d'un spin électronique vers un autre type d'objet quantique. D'accord. Donc ces ondes acoustiques de surface, ce sont des tout est dit dans leur nom, c'est des ondes acoustiques, donc des vibrations des atomes d'un matériau. Et ces ondes sont des ondes de déplacement qui se propagent à la surface d'un matériau. Donc ce sont des ondes de Rayleigh, parce que c'est Rayleigh qui les a découvertes. Elles se propagent longitudinalement par rapport à leur front, qui est linéaire. Et chaque finalement atome à la surface de ce matériau, ou déplacé par cette onde, fait finalement un mouvement elliptique. Donc, c'est-à-dire qu'il décrit une ellipse ici. La vitesse de ces ondes, c'est à peu près quelques kilomètres par seconde. C'est-à-dire que quand on se place à quelques gigahertz, finalement, la longueur d'onde associée à la propagation, c'est de l'ordre du micron. D'accord. Et ces deux propriétés font en fait que ce sont des objets classiques qui ont été beaucoup développés dans les années 60-70, tout simplement parce que à ces fréquences de entre 10 MHz jusqu'à quelques GHz, on peut en faire finalement des lignes de délai, des filtres ou des oscillateurs locaux assez précis. Et donc, c'est été très utilisé dans beaucoup de dispositifs d'électronique classique. Donc là, nous, c'est ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, ce sont des objets très connus dont on maîtrise très bien la génération et la détection de manière classique. Donc finalement, décrire le comportement de ces ondes acoustiques de manière classique, ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc ça, c'est pour montrer finalement dans un matériau piézoélectrique, ces ondes acoustiques, ce déplacement, c'est associé à une modification du champ électrique local. Et donc vous voyez qu'il y a une alternance sur une profondeur qui est de l'ordre de quelques longueurs acoustiques de la valeur du champ électrique, en alternant par des régions où le champ électrique est positif à des régions où le champ électrique est négatif. Et donc, si on comprend ça, on comprend aussi comment les générer ou comment les détecter, parce que dans ce cas-là, il suffit de placer à la surface donc ce qu'on appelle des capacités interdigitées, où en fait, finalement, vous avez des électrodes linéaires qui vont se placer le long de la ligne de front de ces ondes, et qu'on va essayer de faire matcher la périodicité de l'onde à la périodicité des électrodes. Et du coup, au passage d'une onde électromagnétique qui matche justement l'espacement entre les électrodes, on va pouvoir récupérer une tension aux bornes de cette capacité et du coup détecter un front de surface acoustique. L'inverse est vrai. Si j'applique une tension sinusoïdale en calculant de telle sorte que la fréquence matche avec la vitesse de l'onde acoustique, de telle sorte que du coup, la période associée à cette onde acoustique matche l'électrode, pareil, je vais générer une onde acoustique. Et donc ça me donne aussi la réponse de ces capaciteurs, de cette capacité interdigitée. Je peux convertir des micro-ondes en finalement amplitude acoustique, sans essayer peut-être d'être très formel sur qu'est-ce que c'est cette amplitude acoustique. Je peux le faire, mais seulement à la fréquence de résonance associée à la périodicité de la capacité interdigitée et à la vitesse de la onde acoustique de surface qui dépend du matériau et qui dépend plus précisément de l'orientation précise du matériau et du cristal utilisé. Donc il y a beaucoup de choix possibles qui peuvent être faits. L'autre élément dont on va avoir besoin pendant le séminaire, c'est que, bon, là pour l'instant, si je pose une capacité interdigitée, je vais avoir des ondes acoustiques qui vont se propager à droite et à gauche sans aucun discernement. Faire fuir l'énergie, c'est bien pour le principe, mais je veux aussi les détecter. Donc il va falloir recanaliser ces énergies. Et donc dans ce cas-là, on veut placer des miroirs. Les miroirs acoustiques, à quoi ça ressemble? C'est assez similaire aux ces capacités à interdigiter, à ces transduceurs. Ce sont finalement ces séries des électrodes, des réseaux linéaires d'électrodes métalliques posées à la surface métal. Ces électrodes, elles sont très fines. Elles sont de l'ordre du centième de la longueur d'onde. Donc en fait, elles juste pondèrent localement le matériau, ce qui entraîne une toute petite réflexion de l'onde, de l'ordre du pourcent. Et du coup, c'est le même principe que les miroirs de Bragg optiques. On met beaucoup d'électrodes en série, matchées à la longueur d'onde de l'onde incidente, de telle sorte que les réflexions s'accumulent et qu'après une centaine finalement d'électrodes en métal posées à la surface du matériau, on a une réflexion totale. Donc de la même façon que le transduceur, finalement ce comportement de l'onde acoustique, il a un comportement fréquentiel, c'est-à-dire qu'il match seulement lorsque la périodicité de l'électrode match la périodicité de l'onde acoustique, et finalement, hors de ce matching, ce miroir ne marche pas, il n'y a pas de réflexion induite par ce réseau d'électrodes, ou alors une réflexion seulement partielle. Donc ça nous amène à un composant qu'on va utiliser dans ce séminaire, qui est en fait un résonateur, donc une cavité dans laquelle on peut piéger des ondes acoustiques. Donc ici, vous avez le transduceur qui permet de générer ces ondes acoustiques. Et finalement, si de part et d'autre, on place un miroir, on va pouvoir, comme dans une cavité Fabry-Perot, piéger des ondes acoustiques. d'accord, qui vont avoir une fréquence déterminée par l'espacement entre les miroirs et puis le nombre finalement de ventres ou de nœuds qu'on peut placer entre ces deux miroirs. Et donc ce type de résonateur acoustique ou juste ces ondes acoustiques, elles ont déjà été proposées pour adresser un certain nombre d'objets quantiques. Donc par exemple, pour détecter ou interagir avec des spins, on peut générer ces ondes acoustiques qui viennent finalement modifier localement les propriétés du matériau. Et pour un spin électronique, un électron piégé à la surface de ce matériau, qui du coup, on peut avoir utilisé leur spin comme vecteur d'information quantique, le fait que finalement cet électron soit modifié par le passage de l'onde acoustique peut venir finalement permettre d'adresser ce spin, donc ce degré de liberté quantique. On peut aussi finalement transférer des électrons de part et d'autre de deux endroits en étant juste finalement un tapis roulant en fait, qui permet d'emmener l'électron d'un point gauche à un point droit. Et on peut aussi faire de la transduction optique micro-ondes. Donc ça, c'est pour l'instant juste une proposition théorique qui permettrait finalement de coupler la lumière qui circule à travers un guide d'ondes. Donc ici, bon, c'est pas tout à fait circulaire, mais ça a cette forme d'anneau de circulation avec du coup cette onde acoustique qui serait piégée dans ce résonateur. Donc tout ça, finalement, ce sont des propositions ou peut-être déjà des premières expériences qui montrent que ces ondes acoustiques peuvent être interfacées avec des objets quantiques. Et moi, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on a pu le coupler à des qubits supraconducteurs. Donc finalement, la première moment où on a pu voir que finalement il pouvait exister un couplage entre ces qubits supraconducteurs et ces ondes acoustiques, c'est dans une expérience d'un groupe en Suède, à Göteborg, où on pose un qubit supraconducteur sur un matériau piézoélectrique. Le transducteur d'ondes acoustiques fait partie de ce qubit, et finalement on peut venir détecter par un autre transducteur ce qui se passe, l'émission de cette onde acoustique. Et donc ensuite sont venues d'autres expériences où finalement on a pu coupler un qubit supraconducteur à un de ces modes qui était piégé dans le guide d'onde. Donc ça, c'est comment est-ce qu'avec des ondes acoustiques de surface on peut faire un couplage entre un objet quantique et un mode mécanique piégé. D'accord. Là, on ne veut pas faire un mode mécanique piégé, on veut vraiment avoir un mode mécanique itinérant. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est finalement interfacer deux qubits supraconducteurs qui sont très lointains avec une onde qui se propage. Pas une onde piégée, une onde qui se propage. Et je vous ai expliqué tout ce résonateur, ce fait qu'on puisse exciter au milieu et finalement canaliser l'excitation en prenant deux miroirs de l'autre côté, parce qu'on va se placer dans ce dispositif. Et à l'exception qu'on va passer ces miroirs extrêmement loin. Donc avant de vous décrire le dispositif en détail, il va falloir que je vous explique une subtilité, peut-être qui n'est pas apparue dans le cours de Pascal, c'est comment est-ce qu'on peut, de manière efficace, émettre un paquet d'ondes et le recevoir de la part d'un objet quantique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être décrit de manière très, très générale. Donc en fait, si on prend un qubit, un système à deux niveaux qui émettrait un paquet d'ondes, il va émettre finalement ce paquet d'ondes à un certain taux d'émission qui plus ou moins décrit son couplage au guide d'ondes, au train d'ondes acoustiques de laquelle il est couplé. Et donc dans la plupart des circonstances, si on allume le couplage de manière abrupte ou si on excite de manière abrupte ce système à deux niveaux, on peut finalement faire regarder le profil du train d'ondes qui est émis. Et dans ce cas-là, ce profil, c'est un profil qui a une exponentielle décroissante. D'accord ? Et finalement, dans toutes ces expériences qui permettent de coupler deux objets distants, deux objets quantiques distants, la principale difficulté, c'est de faire quelque chose de ce paquet d'ondes. Parce que si vous mettez un objet... Si vous prenez cette onde acoustique, vous la retournez, vous voulez réexciter votre émetteur, Le problème, en fait, c'est que finalement, ce paquet d'ondes qui est arrivé sur le qubit, vous voyez qu'il passe de manière instantanée d'une valeur nulle à une valeur finie. Donc ça veut dire que instantanément, sa bandwidth, elle est infinie. D'accord ? Tandis que cet objet quantique, il a une bande passante finie, il émet seulement un certain taux, c'est-à-dire aussi qu'il peut être excité qu'à une certaine vitesse. Et donc il y a une incompatibilité entre ces deux choses, et ce qu'on peut montrer, c'est que finalement, théoriquement, si rien n'est fait, si on reprend juste finalement le paquet d'ondes émis par un qubit et on le renvoie vers le qubit en espérant le réexciter, en négligeant toute perte, tout problème de focalisation de ce paquet d'ondes sur le qubit, au plus, il y aura 54% de l'énergie de ce paquet d'ondes qui sera réabsorbé par le qubit. Donc ça nous impose que pour toute expérience qu'on va vouloir faire, il va falloir travailler sur ce problème. Donc en fonction des différentes plateformes, il y a différentes solutions qui sont apparues. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est en fait de changer la forme du paquet d'ondes. Donc pour changer la forme du paquet d'ondes, il faut changer la vitesse à laquelle émet le qubit. Donc au départ, il émet très lentement, donc il perd juste un tout petit peu de son énergie. Et puis au d'un moment, on met le couplage finalement à son maximum et on retrouve finalement le décay exponentiel. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a plus de changement abrupt d'amplitude dans ce paquet d'ondes. Donc s'il venait à réémettre le qubit, le qubit serait en mesure de le réabsorber. D'accord. Donc c'est un petit peu une recette pour arriver à avoir un transfert d'état quantique efficace entre deux objets quantiques. Il faut savoir moduler l'émission de cet objet quantique. Et donc il y a beaucoup d'expériences qui ont fait la preuve de ça. Donc là je détaille plutôt celle des circuits supraconducteurs où finalement ça a déjà été utilisé finalement pour transférer de manière efficace un photon. D'accord. Donc là on voudrait faire la même chose avec des phonons et donc plus particulièrement avec ces ondes acoustiques de surface. Donc voici l'image finale du dispositif que je vous présente aujourd'hui. Donc au centre, vous avez ce transducteur qui permet finalement, avec une onde électromagnétique, un signal micro-ondes appliqué à ces bornes, de générer une onde acoustique, donc ici dans la partie noire. Et de part et d'autre, vous avez un miroir qui va permettre de réfléchir cette onde acoustique. D'accord ? Et donc de part et d'autre, le dispositif comparé à ceux que je vous ai montrés de manière précédente, la distance entre ces miroirs est suffisamment grande de telle sorte que si l'impulsion est courte, de l'ordre de la dizaine de nanosecondes, elle sera totalement émise avant de pouvoir rencontrer le miroir. Donc j'aurai vraiment une excitation propageante du transducteur jusqu'au miroir, réfléchie par le miroir, qui va venir réexciter le transducteur. D'accord. Et dans ce cas-là, l'expérience que je vais vouloir faire, c'est de placer de part et d'autre de l'électrode un qubit supraconducteur, et chaque qubit supraconducteur va pouvoir émettre ce phonon et venir finalement le recapturer lorsque ce phonon va venir réexciter le transducteur central. Alors vous êtes peut-être sans doute perturbé par le fait qu'il y a deux paquets d'ondes, et en fait c'est parce que le device est en fait symétrique, et donc à chaque fois que j'émets à droite et à gauche. Donc finalement, mon phonon, c'est un peu un phonon en superposition, un phonon à droite, un phonon à gauche, qui se propagent de droite et à gauche, ils sont réfléchis et reviennent exciter le transducteur central. Mais comme tout le dispositif est symétrique, je ne vais jamais pouvoir sonder finalement cette superposition droite et gauche. Dans tout le reste de ma présentation, je vais considérer que c'est un seul et unique phonon. D'accord ? Donc on en vient à qu'est-ce que ce sont ces qubits supraconducteurs. Donc c'est une, pour dire les choses très succinctement, si vous voulez retenir que ça, c'est une boîte à photons micro-ondes. Donc dedans, je peux piocher un seul photon micro-ondes qui a la fréquence de quelques gigahertz. Donc comment est-ce qu'on fait ça en fait ? On utilise finalement un circuit LC, donc c'est un circuit électrique qui possède une résonance, en mettant une capacité et l'équivalent d'une inductance en parallèle. Et cette inductance, finalement, elle n'est pas faite par un élément linéaire, qui serait juste, par exemple, un fil sur la surface, mais elle est faite par cet élément qu'on appelle une jonction Jevson. Donc deux électrodes supraconductrices qui sandwichent un petit film isolant. Et donc, en fait, cette jonction Josephson, c'est en fait un élément inductif non linéaire et qui permet d'avoir un potentiel énergétique pour ce circuit, non pas parabolique comme on s'attendrait pour un circuit micro-ondes linéaire, mais plutôt un potentiel cosinusoïdal qui permet, lorsqu'on le quantifie, d'avoir finalement des niveaux d'énergie dont les transitions sont différentes d'un niveau à l'autre. Et donc, grosso modo, ça nous permet d'isoler une de ces transitions et d'adresser seulement les deux niveaux fondamentaux. Donc, le tout premier niveau fondamental, c'est quand il n'y a pas de photons, pas d'énergie dans ce circuit. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental ou l'énergie zéro photon. Et ensuite, le premier, c'est quand on a mis exactement un photon à l'intérieur de ce circuit. Et donc, c'est l'état excité ou l'état un photon. D'accord. Donc, ici, maintenant, vous pouvez voir l'implémentation pratique de ce dispositif. Donc, si vous imaginez, si vous avez un chip de saphir, donc c'est vraiment quelque chose qui fait de l'ordre de plusieurs millimètres avec une épaisseur d'à peu près 500 microns. Il est couvert de métal, donc là c'est de l'aluminium, et on vient finalement retirer de manière sélective l'aluminium à quelques endroits. Et donc par exemple la forme de croix que vous voyez, en fait ici ça forme la capacité de ce qubit supraconducteur. Et ici, dans cet endroit, vous avez en fait finalement deux jonction Josephson qui permettent de créer cette non-linéarité et d'avoir cette boîte à photons. Donc la capacité en bleu et ici les inductances. Donc vous voyez qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses sur ce chip et le but est en fait de venir vraiment adresser cet objet quantique de manière complète grâce à toutes ces lignes que vous voyez ici. Donc la première chose, quand on a un objet quantique, qu'on va vouloir faire, c'est finalement mesurer quel est son état. Je veux savoir si, en fonction de ce que je fais, est-ce qu'il y a zéro ou un photon dans ce circuit, pour vraiment m'en servir comme base de calcul. Et donc, pour ce faire, on introduit ici ce que vous voyez, le long serpentin. C'est un guide d'onde coaxial coplanaire qui permet finalement une lecture de ce qubit. Donc la manière dont ça marche, donc ça c'est un résonateur finalement, donc on peut le caractériser par mesure micro-ondes. Donc on a une source qui est placée à côté d'un câble coaxial qui permet de venir mesurer finalement quelle est la fréquence de ce résonateur. Donc c'est un résonateur électronique finalement de tout ce qu'il y a plus lambda, sauf que là il est supraconducteur pour ne pas avoir de perte et il est patterné à la surface du chip pour pouvoir se coupler plus facilement avec ce qubit. Et en fonction de l'état du qubit, le couplage capacitif entre ce résonateur et ce qubit va venir changer la fréquence de résonance de ce qubit. Donc c'est-à-dire que quand je regarde la transmission à travers la ligne de mesure, je vais voir finalement une diminution, une extinction du signal de transmission à une fréquence différente lorsque le qubit est dans son état fondamental à zéro photon ou lorsque le qubit est dans son état excité. Et du coup, en choisissant une fréquence bien particulière et en finalement en traçant cette transmission à un endroit spécifique et en répétant l'expérience, soit en n'excitant pas le qubit, soit en excitant le qubit, je vais pouvoir finalement distinguer deux amplitudes et deux phases différentes pour les différents états du qubit, et je vais pouvoir du coup, dans cet espace des phases, avoir deux régions. Lorsque je fais une mesure qui tombe dans la région d'un côté de cette séparatrice, je vais pouvoir attribuer le qubit dans son état fondamental, et de l'autre côté dans son état fondamental. Si je répète de nombreuses fois l'expérience, je vais pouvoir attribuer une probabilité d'excitation à ce qubit à la fin de l'expérience ou une probabilité de trouver le qubit dans son état fondamental. Donc c'est ça qui permet de mesurer ce qubit supraconducteur. Je peux aussi jusqu'à présent j'ai passé sous silence le fait comment est-ce que je pouvais exciter ce qubit. Et en fait on fait ceci avec ce guide d'onde qui apparaît sur le côté. Donc ça, ça permet juste d'envoyer des micro-ondes qui sont à la fréquence de résonance du qubit. Et ce que ça va induire sur cette sphère de blocs qui représente l'état quantique du qubit, ce sont des oscillations de Rabi. Et donc en fonction de la durée ou de l'amplitude de l'oscillation, je vais pouvoir arrêter ces oscillations de Rabi à un point déterminé de cette sphère de blocs pour préparer l'état initial que je veux, tout en démarrant de l'état fondamental. Donc, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on fait un pulse pi pour emmener le qubit qui démarre dans son état fondamental vers son état excité. D'accord. L'autre chose qui va être pertinente dans ce talk, c'est de pouvoir contrôler la fréquence de ce qubit. Donc, on va pouvoir le placer à différentes fréquences d'émission. Et pour faire ça, donc, en fait, on utilise le fait qu'on a deux jonctions GFSOM en parallèle. Et donc, en fait, en ayant une petite ligne de flux qui vient modifier le champ magnétique à l'intérieur de cette boucle de jonctions GFSOM, on va venir finalement modifier l'inductance équivalente de ces deux jonctions GFSOM en parallèle. Et donc, ça va venir modifier la fréquence de résonance du qubit. Et donc, on va pouvoir la changer. Donc, dans l'état de l'art, c'est plutôt quelques gigahertz. Et ici, on va s'arrêter à quelques centaines de mégahertz. Et donc, de manière peut-être un peu cachée, ça permet aussi de créer une phase sur l'état du qubit en appliquant un pulse qui va venir changer sa fréquence. Donc par exemple, mais cette application de phase, en fait, ça va prendre par rapport à une référence. Si j'ai un qubit témoin, je prépare ce qubit, je le mets dans une superposition d'état excité et d'état fondamental. Il y a une certaine phase associée à cet état. Et lorsque je vais changer la fréquence par rapport au qubit témoin, la phase de ce qubit que j'ai préparé en superposition va changer par rapport à cet état témoin. Donc j'ai créé un déphasage entre les deux lorsque je vais faire revenir le second qubit à la fréquence de l'autre qubit. D'accord. Donc grâce à cette ligne de mesure, je vais pouvoir contrôler aussi la phase entre deux objets quantiques qui démarrent avec des fréquences équivalentes. On en vient peut-être à un point plus en lien avec le cours précédent de Pascal, qui sont quelles sont les propriétés de ces qubits supraconducteurs. Donc si je prépare un qubit dans son état excité, grâce à cette application de ton micro-ondes résonant, pendant combien de temps je vais pouvoir garder cette excitation? Donc, pour connaître cette réponse, on le prépare, on attend un certain temps, on remesure finalement cet état excité au bout d'un certain délai et on trace cette mesure. Et là, on voit finalement que nominalement, dans ce chip en particulier, le qubit décroît avec l'excitation stockée dans le qubit décroît avec une vitesse de un temps caractéristique de 22 microsecondes. Donc finalement, ce qubit, par rapport à l'état de l'art des qubits supraconducteurs, il est plutôt mauvais parce qu'il y a encore un facteur 100 qui a été gagné depuis le temps que ce qubit a été fait par rapport au meilleur des qubits. Maintenant, on est plutôt à un temps de vie de 1 milliseconde. Pour vous donner un point de comparaison, la vitesse à laquelle je peux exciter ce qubit, c'est plutôt 10 nanosecondes. Donc, pas mal de temps pour faire des opérations sur le qubit avant de perdre cette excitation. On peut aussi se demander pendant combien de temps cet état quantique, c'est-à-dire la superposition de le qubit dans son état fondamental et dans son état excité, la phase de cet état peut avoir un sens. Donc ça, c'est mesurer finalement quel est son temps de cohérence. Et donc dans ce qubit, c'est 2 microsecondes. C'est aussi bien en deçà de l'état de l'art. Mais la raison ici, c'est vraiment le couplage qu'on a designé pour aller au phonon que je vais vous expliquer maintenant. Et donc en fait, la manière dont on va générer cette onde acoustique, c'est en utilisant tout le circuit qui est ici, que je n'ai pas encore décrit, qui est en fait un circuit de pont inductif qui va permettre de contrôler finalement, grâce à une jonction GFSOM additionnelle, finalement la quantité d'énergie du qubit qui va venir explorer le transducteur qui génère l'onde acoustique. Donc en fonction de la valeur de cette jonction GFSOM, je vais pouvoir plus ou moins avoir d'énergie fuyant vers ce transducteur et du coup plus ou moins d'ondes acoustiques émises, ce qui va être utile à la fois pour avoir une situation off, finalement, je peux prétendre que je n'ai pas de couplage acoustique. Et puis aussi, pour émettre ce paquet d'ondes plus ou moins symétrique que j'ai discuté, qui va permettre de faire un transfert d'état quantique efficace. Donc voilà finalement le dispositif final avec deux qubits identiques de part et d'autre, de manière placés de manière symétrique en miroir. Et au-dessus, je vais mettre un autre chip, un chip fait d'un piézoélectrique qui s'appelle du niobiate de lithium, dans lequel vont être émises ces ondes acoustiques de surface. Et donc en fait, les deux chips sont placés suffisamment proches pour qu'il y ait un couplage inductif entre le qubit supraconducteur et le transducteur central qui va faire l'émission des ondes acoustiques. Donc voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Donc il faut fabriquer deux chips, un chip supraconducteur, un chip sur lequel on a les ondes acoustiques de surface. Il faut les assembler à quelques microns près et ensuite il faut les placer dans un cryostat à dilution. Donc on travaille à 10 millikelvin. Il y a deux raisons à ceci. D'abord, c'est que tous les ce que je vous ai montré travaille à des fréquences de quelques gigahertz, et donc si on va être dans un état quantique, il faut baisser le nombre d'excitations thermiques, qui est l'ordre de 1000 à température ambiante. Donc c'est seulement en dessous d'à peu près une centaine de millikelvin qu'on arrive à un nombre raisonnable d'excitations thermiques pour lesquelles on puisse faire la manip. Et la seconde raison, c'est que si on ne veut pas de perte, avoir les tendues que je vous ai montrées, il faut que tout le métal qui crée le qubit soit dans un état supraconducteur pour ne pas avoir de perte résistive. D'accord. Et donc, les matériaux sont choisis pour et la température sont choisies pour ne pas avoir cette dissipation. Donc, on en vient finalement aux premières mesures expérimentales, donc, qui sont essayer d'émettre un phonon unique grâce à ce qubit supraconducteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est préparer le qubit dans son état excité, placer ce coupleur, ce pont inductif dans son état de couplage maximum et venir essayer d'émettre des phonons ou en tout cas voir que le qubit perd son excitation. Donc lorsqu'on fait ça, on prépare le qubit à plusieurs fréquences différentes et on juste regarde à quelle vitesse il perd son excitation. Et donc là on voit finalement des propriétés extrêmement différente en fonction de la fréquence de résonance. Soit si on est plutôt ici à 3,95 GHz, on émet très très vite l'excitation, tandis qu'à d'autres fréquences, ici et ici, on perd très lentement l'excitation. Et donc ça, en fait, vient de la réponse fréquentielle du transducteur. On ne peut exciter, émettre des ondes acoustiques que si on est parfaitement matché à la périodicité du transducteur, ce qui donne la fréquence ici à peu près 3,95 GHz. Ensuite, ce qu'on voit lorsqu'on regarde un peu plus loin, lorsqu'on a émis ces qubits, on a un regain d'excitation. Quand on a émis des ondes acoustiques ici, on a un regain d'excitation à peu près 500 nanosecondes plus tard. 500 nanosecondes, c'est le temps qu'il faut pour que les phonons se propagent dans le guide d'onde, soit réfléchi par le miroir et reviennent réexciter le qubit. Donc ce qu'on voit ici, c'est un phonon qui a été émis par le transducteur, s'est propagé, a été réfléchi par le miroir et vient réexciter le qubit. On voit que le qubit n'est pas réexcité totalement, on a à peu près seulement 50% de réexcitation, et ça, c'est vraiment dû au fait qu'on émet pour l'instant un paquet d'ondes, donc on n'a fait aucun effort pour contrôler sa forme. Ça c'est peut-être un point de détail technique. En contrôlant la phase aux bornes de cette jonction Josephson, on peut modifier le comportement de ce pont inductif, et donc en fait on peut freiner l'excitation de ce qubit, et donc c'est ce que montre ce schéma ici. Et donc si on peut contrôler le taux d'excitation de ce qubit, on peut vraiment faire cette mise en forme du paquet d'ondes que j'ai évoqué précisément, c'est-à-dire moduler finement ce paquet d'ondes pour que finalement le qubit n'émette rien, puis après progressivement plus, de telle sorte que le paquet d'ondes qu'on émet est plus ou moins cette forme-là. D'accord ? Donc on le voit aussi finalement lorsqu'on regarde le decay du qubit, ce n'est plus un decay exponentiel comme avant, c'est un decay qui a finalement une forme de tangente. La forme précise n'est pas importante. La symétrie dans le temps n'est pas importante, mais par contre, matcher précisément la forme du decay du qubit par rapport à ce taux d'émotion l'est. D'accord ? Lorsqu'on fait ça du mieux qu'on peut, en essayant de capturer le maximum d'énergie qu'on a, on trouve que le meilleur score qu'on peut faire dans un sens, c'est 67%. C'est-à-dire donc sur l'énergie du qubit qu'on a perdu, qu'on a transformé en onde acoustique, on peut en récupérer seulement 67%. On peut, donc ça c'est, finalement on peut faire ce qu'on appelle des tomographies quantiques, et donc en tomographie quantique on parle de fidélité par rapport à une opération identité, parce que finalement on a émis l'état du qubit, on l'a récupéré, normalement on n'a rien fait, et ça par rapport à l'opération identité, on a une fidélité de 82%. Donc on peut, pour essayer de déterminer d'où vient cette efficacité, on peut essayer de finalement faire ça pour plusieurs transits du phonon. D'accord ? J'émets le phonon, il se propage une fois, je choisis de ne pas l'attraper cette première fois, je le laisse se propager une seconde fois et seulement là, je l'attrape. Donc c'est ce que veut dire ce temps. J'attrape le premier transit, le second transit, le troisième, etc. Et vous voyez que là, il y a un décai exponentiel. Et donc en fait, on infère que finalement cette efficacité non parfaite qu'on a vient tout simplement des pertes acoustiques. Finalement, le phonon, quand il voyage, son amplitude va ailleurs que dans ce mode qui est couplé au qubit. Et donc on a un manque d'efficacité dans ce transfert d'état quantique. D'accord. On peut faire, malgré ces pertes acoustiques, pas mal d'expériences. La première chose qu'on peut faire, c'est montrer qu'on peut faire stocker plusieurs phonons dans notre résonateur. C'est-à-dire qu'on prépare notre premier qubit, il émet ce phonon. On a un deuxième qubit dans l'expérience, on peut aussi l'exciter et le faire émettre son phonon un peu plus lointain. Et donc on peut avoir les deux phonons existants en même temps dans le rail acoustique. Et puis chaque qubit va venir chercher l'excitation de l'autre sans aucun souci. Et on est juste limité dans cette opération par les pertes acoustiques. Donc c'est vraiment montre que finalement c'est possible de transférer des états quantiques entre deux objets différents, là donc deux qubits supraconducteurs, ils ne sont pas de nature différente mais ils sont quand même différents grâce à ces ondes acoustiques propageantes. L'autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment plutôt des expériences d'optique quantique avec ces phonons. Donc pour l'instant, je vous ai montré que le phonon pouvait porter finalement l'état quantique d'un point A à un point B. Mais c'est aussi un état quantique en lui-même quand il se propage. Donc on peut essayer de tester ça en faisant une expérience, finalement, où on essaye d'attraper seulement à moitié, la moitié d'un phonon. Donc pour faire ça, on va préparer le premier qubit dans son état excité, et puis là, on va moduler le couplage de telle sorte qu'il perde seulement la moitié de son énergie. Donc finalement, la moitié de l'énergie est restée dans le qubit, et l'autre moitié se propage. D'accord ? Et si j'applique juste le contrôle symétrique donc, par exemple, je fais quelque chose de différent. Cette moitié de phonon, je choisis de l'attraper par l'autre qubit. Donc finalement, grâce à avoir seulement la moitié de cette excitation transmise, j'ai intriqué ces deux qubits. Parce que finalement, l'excitation initiale du qubit, du premier qubit, je l'ai à moitié transférée vers ce second qubit. Et finalement, l'état quantique qui décrit cet objet, c'est soit ce qubit 1 est resté dans son état excité et du coup le qubit 2 n'a pas été réexcité, soit le qubit 1 a perdu cette excitation et le qubit 2 l'a réexcité. Donc en moyenne, je trouve des probabilités d'excitation de 50%, mais à chaque mesure, à chaque expérience que je prépare, c'est en fait un état superposé où seulement un seul des qubits est excité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un état de Bell. On n'est pas très bon par rapport à ce qu'on espérait avoir théoriquement. On a seulement une fidélité de 86%. Et lorsqu'on essaye finalement de faire l'inégalité de Bell, eh bien, on ne passe pas le critère. D'accord, on est quelques pourcents trop bas juste parce qu'on a trop de pertes acoustiques. Mais on peut quand même continuer à faire quelques jolies expériences avec ce dispositif. Et la première chose qu'on peut faire, c'est des expériences d'interférence. Donc cette fois-ci, on ne va plus seulement utiliser qu'un seul qubit. On lui fait seulement perdre son excitation, une demi-excitation. Donc là, finalement, au milieu de la propagation, on est dans un état superposé entre avoir le qubit excité et avoir un phonon qui se propage dans le résonateur. Donc ce phonon, finalement, comme je vous racontais cette histoire de déphasage, le phonon, c'est mon état témoin. Il ne fait rien. C'est la référence absolue. Et pendant ce temps de propagation, je peux appliquer un pulse de déphasage sur ce qubit-là, qui va finalement lui faire acquérir une phase dans la superposition par rapport à ce faux nom témoin. Du coup, lorsque on arrive à l'opération capture, en fait, il va avoir interférence entre le champ émis par le qubit et le champ émis par le faux nom, dont je peux contrôler, avec cette superposition, dont je peux contrôler la phase du qubit. Et donc finalement, la résultante fait que soit on va avoir l'état du qubit va retourner dans son état excité juste par symétrie s'il n'est pas appliqué de phase, tandis que si j'ai appliqué une phase exactement de pi, une interférence entre ces deux champs électromagnétique et acoustique va avoir lieu, et donc on va avoir finalement le qubit qui se désexcite. Donc ça, c'est un premier pattern d'interférence. Et donc une manière un peu imagée de le voir, c'est de regarder le système comme se propageant selon deux chemins d'évolution. On démarre avec ce qubit qui, on peut tout à fait dire que c'est une source de photons, de phonons, pardon. Le fait de n'émettre qu'un seul phonon, finalement, c'est se splitter entre deux chemins d'évolution. Soit le qubit est excité, soit un phonon se propage. Je peux contrôler la phase entre ces deux chemins d'évolution. Et finalement, la deuxième étape de capture refait une opération de séparation ou de recombinaison des chemins. Il y a les deux manières équivalentes de le dire. Et je peux mesurer le chemin d'évolution qui consiste à regarder quelle est l'excitation du qubit. Donc, c'est-à-dire que je peux faire pas mal de tests fondamentaux sur quelle est la nature du phonon grâce à ce schéma. C'est-à-dire que, par exemple, le phonon, comme le photon, c'est une déité onde-corpuscule, donc ça veut dire que c'est à la fois cette onde qui se propage, mais ça doit être aussi un quanta que je peux localiser. C'est-à-dire que si je retire cette deuxième opération de recombinaison, je ne devrais plus voir ce réseau d'interférences. Ou une autre manière de le faire, c'est d'essayer de mesurer finalement dans quel état est le système pendant cette évolution. Et donc ça devrait aussi finalement casser le principe de superposition et du coup annuler cet effet d'interférence. C'est ce qu'on peut essayer de voir. Et finalement, si c'est vraiment un phonon qui répond à toutes les propriétés de la mécanique quantique, je devrais pouvoir aussi effacer cet effet. Donc c'est ce qu'on appelle une expérience de gomme quantique, où je viens finalement effacer le fait que j'ai projeté cette superposition en effaçant l'action d'observer le système. Donc, pour revenir finalement à cette expérience, je prépare le qubit, j'émets la moitié d'un phonon, ce qui me fait me propager entre deux systèmes, deux états, deux chemins d'évolution, l'un où le qubit est excité, l'autre où le phonon est excité. Donc, je suis finalement, à ce temps ici, le système est dans un état superposé, avec le qubit excité où le phonon émis. Je peux refaire une opération de capture, qui du coup en fonction de la phase me fait ce pattern d'interférence. Et maintenant, pour essayer d'avoir cette localisation dans le chemin d'évolution, le qubit est excité, ce que je peux faire, c'est émettre un second phonon. Donc je fais ça en utilisant le fait, je vais peut-être passer sur ces détails, c'est assez technique, je peux utiliser un troisième niveau du qubit, le faire émettre à une fréquence différente, de telle sorte que finalement, la résultante de cette opération, c'est j'ai un phonon d'une couleur différente qui est émis seulement si et seulement le qubit est dans son état excité. C'est-à-dire que maintenant, finalement, pendant cette propagation, quand j'ai généré ce second phonon, mon état de superposition, vous voyez, il n'applique plus deux états équivalents, ils sont finalement colorés par l'existence de ce second phonon. Donc quand j'ai fait ça, j'ai en fait finalement transmis à l'environnement l'information de dans quel état d'évolution était mon système, c'est-à-dire lorsque je vais vouloir faire l'interférence, eh bien, je ne vais pas trouver d'interférence. Et c'est exactement ce qu'on mesure. Alors maintenant, comment est-ce qu'on efface ça? J'ai mis ce second phonon. Comment je fais pour effacer finalement cette action de l'environnement sur ce système interférométrique? Eh bien, pour nous, là, il s'agit simplement, finalement, de capturer l'environnement. Donc l'environnement, pour nous, c'est ce faux-nom vert. Donc on va le recapturer avec ce second qubit qu'on a à disposition. Donc si je le recapture avec ce second qubit, ça ne change rien au fait que je n'observe plus d'interférence. Parce que maintenant, finalement, l'environnement, ce n'est pas ce faux-nom vert, c'est ce second qubit. Pour effacer finalement cette information que ce second qubit m'a permis de gagner sur le chemin d'évolution suivi par le système, il faut que je brouille son état. Et là, je peux simplement faire ça en appliquant un pulse pi sur 2 finalement qui homogénéise la probabilité de le trouver dans l'état excité ou l'état fondamental, peu importe son état de départ. Et lorsque je fais ça, eh bien, dans ce cas-là, je peux revenir à avoir les interférences que j'avais au départ. Donc, elles ne sont pas aussi jolies, mais ça, c'est juste les pertes acoustiques qui dégradent en fait la visibilité des interférences au fur et à mesure qu'on fait des opérations plus compliquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je voudrais vous dire pour conclure ce séminaire, c'est qu'on peut faire maintenant des opérations encore plus compliquées avec ces phonons. On peut maintenant les émettre de manière unidirectionnelle, c'est-à-dire soit sélectivement à droite, soit sélectivement à gauche. On peut créer des beam splitters localement, non plus à l'aide d'un qubit. Et donc dans ce dispositif, par exemple, à l'aide de ces deux nouvelles propriétés, on peut faire ce qu'on appelle des opérations, une expérience de Hongu-Mandel. Finalement, on a deux phonons uniques qui arrivent sur ce beam, sur cette lame séparatrice. Et finalement, de part et d'autre, lorsqu'on on a deux phonons qui arrivent sur cette lame séparatrice, l'état de sortie attendu, c'est une superposition où on a soit les deux photons qui sont à droite, soit les deux phonons qui sont à gauche. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une situation où les qubits émetteurs ne peuvent pas être excités simultanément. Et c'est lorsqu'on time précisément ces deux phonons émis, c'est exactement ce qu'on voit. On a une impossibilité de trouver les deux qubits à la fois, en même temps, dans leur état excité. C'est parce que finalement, soit les deux excitations sont parties à droite, soit les deux excitations sont parties à gauche. Donc il y en a un des deux qubits qui jamais ne sera réexcité. Voilà. Et donc pour conclure, donc je vous ai montré que finalement, un qubit supraconducteur, qui est un objet maintenant bien maîtrisé, peut être utilisé pour émettre des phonons. Donc ce que je vous ai montré était assez limité par les pertes acoustiques. Maintenant, très récemment, étaient développés des guides d'ondes acoustiques en silicium qui ont un bien meilleur temps de vie, donc moins de pertes. Donc il est possible d'imaginer avoir des expériences s'approchent, qui ont finalement des états quantiques un peu mieux préservés dès lors qu'on passe par un cheminement acoustique. Et donc, finalement, les perspectives de ce travail, ça serait maintenant de venir coupler des états, des objets quantiques différents. Donc là, c'était deux qubits supraconducteurs, mais on peut espérer pouvoir interfacer des objets quantiques différents. Et pourquoi pas, finalement, faire ce qu'on peut faire avec des photons uniques. Mais là, au vu de la qualité des opérations, c'est un développement à bien plus long terme. Et donc, avec ceci, je voudrais vous remercier pour votre attention et je serais ravie de répondre à vos questions s'il y en a. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.